Alors, devant moi, j'ai la co-directrice artistique du FTA. Elle s'appelle Martine Denewald. Est-ce que je prononce bien? Ou s'il faut dire V pour le W?
Alors, vous voyez, moi, je viens de Luxembourg. Et donc, au Luxembourg, souvent, les noms ont un prénom français, francophone, et un nom allemand, germanophone. Et donc, oui, si vous voulez prononcer le V, le W, en fait, comme un V,
c'est préférable.
Oui.
Alors, Martine Denewald, qui est en studio pour nous parler de la 18e édition du... Est-ce qu'on dit toujours FTA ou on peut dire Festival Transamérique sans avoir le risque de se faire taper sur les doigts?
Ah, personne ne vous tape sur les doigts. On accepte l'acronyme comme le nom complet du festival.
Parfait. Et Martine, vous êtes co-directrice du FTA depuis combien d'années?
Là, ça fait 3 ans que je suis à Montréal et donc j'ai déménagé pour ce travail-là. 3 ans que je co-dirige le festival avec Jessie Mill.
Jessie Mill. Et co-diriger, est-ce que c'est un défi supplémentaire que simplement diriger?
À vrai dire, c'est un soulagement, je dirais. J'ai dirigé un festival des arts vivants en Allemagne avant, pendant 6 ans. Donc, j'étais vraiment confortable aussi avec la situation d'être seule à la tête d'une institution. Mais de pouvoir partager en particulier les doutes qu'on peut avoir, de partager les responsabilités, de savoir qu'on est en dialogue constant et qu'on peut donner une voix à ce qui semble incertain peut-être, c'est vraiment un soulagement. C'est une prise de décision collective, à deux, un ping-pong constant entre nous, et même que ce dialogue-là, je dirais, crée une porosité plus grande par rapport à l'équipe. Parce que l'équipe aussi sait que nous sommes en dialogue constant, et donc c'est plus facile pour elle et pour eux de se joindre à ce dialogue, de prendre position, de connaître des opinions et de participer à la prise de décision.
Bon, alors, c'est plus positif que négatif, dans la mesure où on est capable de s'ouvrir à l'autre, puis être capable d'accepter que nos idées ne sont pas toujours les meilleures.
Mais nos idées, en fait, évoluent ensemble et cela les rend meilleures,
c'est
je
ça.
Dirais.
Parce que l'idée, c'est de proposer le meilleur festival qui soit. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas encore entendu parler du FTA, ça me surprendrait beaucoup parce que vous existez quand même depuis 18 ans. Mais il y en a, j'imagine. Le Festival Transamérique, le FTA, c'est la même chose. Mais comment vous le présentez?
Alors, je vais commencer juste en disant que avant l'existence du FTA comme il est aujourd'hui, donc une grande fête de la danse et du théâtre qui se déroule sur 16 jours à Montréal, avant ça, il y avait le Festival de théâtre des Amériques qui, lui, avait été fondé en 1985 par Marie-Hélène Falcon et Jacques Villeneuve. Et c'est en fait le même festival, si vous voulez, qui a élargi son mandat puis qui passait d'un festival biannuel à un festival annuel. Donc, on a vraiment une longue, longue histoire.
Oui, parce que je me disais, 18 ans, c'est pas beaucoup. J'avais l'impression, parce que j'ai déjà fait une entrevue avec Mme Falcon, puis 18 ans, c'est quand même beaucoup. Mais par rapport au Festival Transamérique, il me semble qu'il est dans notre imaginaire depuis encore plus longtemps. Alors, il a évolué avec le temps. Et comment le festival se distingue-t-il des autres festivals? Vous avez parlé de danse, de théâtre, de musique aussi.
En fait, le FTA a un mandat très clair qui est un mandat de danse et de théâtre et, mettons, des formes interdisciplinaires ou multidisciplinaires qui existent entre les deux aussi. Donc, ce qu'on pourrait appeler, par exemple, de la performance ou, par exemple, des spectacles qui intègrent beaucoup de musique, même de la musique en live sur le plateau. Par contre, le festival ne fait pas de musique à proprement dire. Donc ça, c'est les Franco, c'est le festival de jazz, tous ces autres festivals.
Il n'y a pas de chanteurs-chanteuses sur la scène, mais il y a de la musique quand même qui peuvent accompagner les spectacles de danse ou de théâtre.
C'est ça. Peut aussi y avoir un chanteur, une chanteuse sur la scène, mais ce sera dans un spectacle des arts vivants, un spectacle de théâtre qui raconte aussi une histoire, qui fait vivre la danse et le mouvement d'une façon forte.
OK. Et est-ce qu'on trouve seulement des artistes invités en provenance de l'Amérique?
Alors là encore, le festival a fait un bout de chemin parce qu'aujourd'hui, le FTA est un festival international et qui accueille des artistes littéralement du monde entier. D'autant plus que Jessie Mill et moi portons une réflexion sur la provenance géographique des artistes. Il nous semble important de nous ouvrir à ce qu'on appelle le Sud global, donc au continent africain, à l'Amérique latine, puis d'accueillir aussi notamment des artistes autochtones vraiment du monde entier pour qu'un certain échange puisse avoir lieu et que le public montréalais ait accès à ces artistes-là, à leurs esthétiques, à leurs histoires, à leurs récits.
Le spectacle d'ouverture, ben c'est demain l'ouverture, le 22 mai, c'est « Du temps où ma mère » de Éric Charour, c'est bien ça, qui était dans le devoir, le cahier D du devoir. Vous allez me reprendre là?
Oui, je m'excuse, mais donc Éric Chacour, c'est le romancier québécois, j'ai et dit... Ali Charour, c'est le chorégraphe libanais que nous avons
invité. Je pensais que j'avais dit
Charour. Vous avez dit Éric Charour.
J'ai mélangé l'auteur et l'écrivain. Alors, il faut dire les choses correctement. Ali Charour, merci. Et lui, il a dit en entrevue, nous voulons parler d'art. C'est donc une réponse claire et univoque de ce chorégraphe qui est libanais lorsqu'on lui demande ce dont lui et son équipe souhaitent parler avec le public du FTA à travers son spectacle. Pour vous, Martine Denevalde, c'est quoi l'art?
Ça, c'est une excellente question et ça fait longtemps qu'on ne me l'a pas posée. Pour moi, l'art est une expérience très personnelle, à vrai dire, mais que j'adore partager avec un public autour de moi. Donc, je pense qu'il y a vraiment des gens qui apprécient l'art en solo, les lecteurs, les lectrices, je ne sais pas, les personnes qui écoutent la radio, peut-être. Mais le fait qu'on se rende dans un théâtre comme personne individuelle, qui n'a rien à voir avec toutes ces autres personnes, ces 500 autres personnes qui m'entourent, qu'on fasse une expérience artistique ensemble, que quelque chose soit communiqué, qu'on le reçoive, oui, chacun et chacune à sa manière, mais quand même qu'il y ait cette expérience collective, ce processus de la pensée et ces émotions qui vont se manifester et qu'on sorte du théâtre comme collectivité, comme un public. Je trouve cela magique et c'est ça qui me passionne dans les arts vivants, qui sont évidemment ma spécialité et ce qu'on présente dans le festival.
Est-ce que le festival est fait pour tout le monde? Est-ce que, parce que des fois on entend dire oh, c'est un festival un peu hermétique, qui propose des choses qui sont pas nécessairement populaires, entre guillemets. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je mettrai beaucoup de guillemets autour de tous ces mots-là. Le festival essaie de présenter ce qu'il y a de plus pertinent, de plus exceptionnel dans les arts vivants, donc dans le théâtre et la danse, chaque année. Et en même temps, il veut s'adresser à tous les publics et même à un large public, parce que le FTA, ce sont quand même 40 000 spectateuristes chaque année, et la moitié de tout ça, c'est dans l'espace public. Donc cette année, on a deux spectacles dans l'espace public qui sont gratuits, qui sont accessibles, où vous pouvez simplement vous pointer à la place des festivals, par exemple, pour une œuvre monumentale qui s'appelle « Multitude », et qui est créé avec une centaine de participants, de citoyens, de citoyennes, ici de Montréal. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus populaire que ça? Je pense que non. Je pense qu'on se rend vraiment à l'extrême, même de la popularité, en présentant ce spectacle-là, pour donner un exemple.
Alors, il y a des spectacles gratuits, vous avez dit qu'il y en avait deux. Celui de Sophia Nolin, de quoi il en retourne de ce spectacle-là?
Alors, vous parlez de « Surveiller et punir ». Un spectacle créé par Safia Nolin, la chanteuse musicienne que vous connaissez, vient d'écouter d'ailleurs, et Philippe Cyr.
C'est une chanteuse finalement.
voilà, vous l'avez la chanteuse. Et Philippe Cyr, le metteur en scène, qui dirige aussi le théâtre Prospero. Ils ont une relation professionnelle de longue date et ils ont décidé à un certain moment de faire un projet ensemble où ils travailleraient avec les propos haineux qui sont adressés à Safia Nolin sur les réseaux sociaux, qu'elle archive, qu'elle documente, qu'elle collectionne. Ouais. Donc, d'utiliser ce matériel-là et d'en faire une œuvre musicale où Safia serait elle-même sur scène et se ferait chanter ces insultes-là par un chœur de 25 personnes.
Ah, c'est fort, puis en même temps, c'est extrêmement troublant comme expérience, j'imagine pour elle, mais pour le public aussi, là.
C'est certainement troublant. C'est aussi d'une grande beauté musicale. J'ai entendu des esquisses du matériel musical. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes elles-mêmes, donc Philippe et Safia, espèrent que ce spectacle sera finalement guérissant et salvateur parce que c'est une façon pour l'artiste de reprendre le contrôle, d'avoir une emprise sur ce matériel-là et de créer quelque chose à partir du matériel qui lui appartient en propre.
En faire de l'art, finalement. Mais aussi, ça fait réfléchir. Martine, vous vouliez aussi parler d'un spectacle, la programmation est extrêmement riche, mais un spectacle sur lequel on devrait insister, c'est celui qui sera offert en audiodescription.
Exact. Depuis 3 ans, nous avons une collaboration avec Danse Cité, qui a développé un savoir, une expertise particulière en audiodescription de la danse. Donc, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, j'explique brièvement. Ça veut dire que nous accueillons des publics aveugles et amblyopes en salle, que nous leur faisons faire un atelier de présentation de l'œuvre, qui notamment implique le toucher, Donc de pouvoir être dans la scénographie, de toucher des costumes, d'avoir une impression sensorielle de ce qui va se passer. Ensuite, le spectacle a lieu et ce public-là aura des écouteurs et une audiodescriptrice, donc une personne formée en audiodescription, va décrire le spectacle en mots pendant qu'il se passe. Donc cette personne est là, live, en présence, pendant que ça se passe, et est vraiment en mesure, à partir de sa préparation, bien sûr, de décrire tout ce qu'elle voit. Et ensuite, il y a une rencontre qui est organisée pour ce public cible-là avec les artistes. Et donc l'œuvre qu'on a choisie cette année, parce que ce n'est pas si simple de la choisir, il faut vraiment réfléchir à l'expérience que ça pourra donner. Ça, c'est un spectacle qui s'appelle Weathering de Faye Driscoll, une chorégraphe états-unienne qui vient aussi de remporter différents prix avec cette œuvre-là, un Obie Award comme le plus prestigieux prix du Off-Broadway à New York, et qui n'est jamais venue à Montréal. Donc on a vraiment hâte de l'accueillir. Avec ce spectacle où le public est assis en quadrifrontal, donc tout autour d'une espèce de plateforme qui a l'air d'un gros matelas. Et 10 interprètes vont prendre place sur ce matelas, vont former comme une sculpture vivante. Et tout ça va bouger très lentement d'abord. Il n'y a vraiment que les détails qui changent, une petite larme qui se glisse sur une joue... une chemise peut-être qui se déplace, qui tombe d'une épaule, des mouvements très lents, et notre perception va s'ajuster à cette lenteur, à ce temps proposé par le spectacle. Et ensuite, ça va accélérer, puis la plateforme va se mettre à tourner, elle sera poussée par des techniciens, par la chorégraphe elle-même, par les interprètes, et cette sculpture va s'écrouler, les forces centrifugées vont faire que tout cela éclate de plus en plus, que les objets tombent, les vêtements tombent, que la sueur, la transpiration, les larmes coulent, littéralement. Et sans vouloir trop interpréter le spectacle, c'est très difficile de ne pas voir dans ce spectacle-là, dans cette humanité présente sur une plateforme, un radeau, aussi une image d'une humanité qui serait comme au bord d'un gouffre, au bord d'un précipice, peut-être d'une extinction.
En train de chuter.
En train de chuter.
J'aurais aimé ça qu'on parle dans davantage d'autres spectacles. Peut-être un titre. Il nous reste une petite minute, Martine.
Alors, si je peux vous faire une recommandation du fond de mon cœur, venez voir Prophétique. C'est un spectacle époustouflant qui vient de Côte d'Ivoire, une chorégraphe d'Abidjan, Nadia Beugré, et qui rassemble 5 personnes des communautés trans qui vivent des vies entre, je dirais, la clandestinité et la surexposition, et qui nous propose un spectacle haut en couleur, très énergisant, qu'il ne faut absolument pas rater.
Où et quand ?
C'est au Monument National. Je pense que c'est mardi, mercredi, jeudi de la semaine prochaine.
D'accord. Et le spectacle en audio description, c'est à l'Agora de la danse ?
Non, celui-là, il est à l'Usine C et c'est le 5 juin.
Parfait.
Et il faut réserver. Si vous voulez faire l'audiodescription, il faut réserver. Les infos sont sur le site. Il faudra appeler un numéro de téléphone que je peux vous dire à l'instant,
oui,
si ça vous va. Alors, appelez au 514-525-3595 pour réserver l'audiodescription de Weathering le 5 juin.
Et fta.ca, c'est votre adresse Internet pour avoir toutes les informations sur tous les spectacles. Bon FTA, et ça commence donc demain, ça se poursuit jusqu'au 5 juin. Je recevais avec grand plaisir, ça passait vite, Martine Denevalde, j'oublierai jamais comment prononcer votre nom de famille, co-directrice artistique du FTA. Merci à toute l'équipe, merci à Mathieu. Ici Hélène Denis, à demain.